Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
À la saison des pluies, cette mousse se transforme en une vraie montagne. Elle déborde sur la route et on ne peut plus circuler.
Et ce drôle de phénomène, c'est à l'embouchure d'un lac qu'il se produit à côté de Bangalore, l'une des plus grandes villes de l'Inde, l'une des mieux développées, la Silicon Valley de l'Inde. Oui, mais cet endroit surpeuplé manque d'eau à un point crucial. Ce sera l'escale reportage Un jour dans le monde avec Sébastien Farcy ce soir. À suivre aussi le cinéma en VO et Eva Bétan, un film chinois ce soir, Les anges portent du blanc. On aura aussi un avant-goût de ce qui nous attend à Cannes pour ce qui est des films étrangers. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger qui murmure ce soir à l'oreille de Donald Trump. Mais d'abord, je vous emmène sur un caillou au milieu du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Emmanuel Macron est donc en route ou presque pour la Nouvelle-Calédonie. Il y sera demain, en tout cas, deux jours après un passage par l'Australie. On verra évidemment dans un instant qu'il n'est pas question de faire l'un sans l'autre. Une Nouvelle-Calédonie, en tout cas, à 6 mois de son référendum. Ce sera le 4 novembre prochain, donc c'est une étape importante. Bonsoir Sarah Mohamed Gaillard.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, spécialiste de l'histoire de l'Océanie, justement, et de la politique de la France dans le Pacifique Sud. Tiens, je voudrais qu'on écoute ensemble quelque chose qui va nous ramener d'abord 30 ans en arrière et qui nous explique peut-être aussi pourquoi ce voyage d'Emmanuel Macron est parfois à haut risque.
La nuit dernière, sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, les 23 personnes qui étaient détenues en otage ont elles aussi été libérées. Contexte différent, vous le savez, car sur place, en Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. Le bilan est très lourd. 17 morts, 15 militants indépendantistes et 2 militaires.
Voilà, l'assaut d'Ouvéa, il a 30 ans, mais encore très très vivant, très vivace dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu, dans les mémoires de la Nouvelle-Calédonie. Il va y aller au moment de la date anniversaire, Emmanuel Macron, et ça fait pas plaisir à tout le monde. Cette plaie est pas tout à fait refermée, visiblement.
Non, 30 ans, c'est très bref à l'échelle de l'histoire et d'une vie humaine. La plupart des gens se souviennent très bien d'Ouvéa. C'est une histoire très douloureuse pour la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, au-delà d'Ouvéa. Mais le 5 mai, c'est une date de triple commémoration. Mm-hmm. Il y a effectivement l'assaut donné contre la grotte qui s'est soldé par la mort de 19 preneurs d'otages Kanak, indépendantistes. Le 5 mai 1989, un an plus tard, Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene, qui étaient les leaders du Front National de Libération Kanak et Socialiste, se rendent à Ouvéa pour la levée de deuil, qui est une cérémonie coutumière, et ils sont tués à ce moment-là par un indépendantiste kanak d'Ouvéa qui, par ce geste en fait, conteste les concessions qui ont été faites par les leaders du FLNKS.
Refuser les poignées de main, en quelque sorte.
Un an avant, par les accords de Matignon. Et il ne faut pas oublier non plus le 5 mai 1998, qui est la date de signature à Nouméa de l'accord de Nouméa, qui prend la suite, qui prolonge les accords de Matignon, puisque à l'issue des accords de Matignon, il devait y avoir un référendum d'autodétermination qui, d'un commun accord, a été repoussé. Et on arrive maintenant au terme de l'accord de Nouméa qui repoussait jusqu'à 2018 au plus tard le référendum d'autodétermination de la Calédonie.
Et on va y venir effectivement à ce processus et où il nous emmène aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire promesse de manifestation un peu musclée, de rafraîchir effectivement la mémoire d'Emmanuel Macron? C'est ça que ça promet pour demain ou pas?
Ce qui est certain, c'est que les gestes et les paroles d'Emmanuel Macron vont être scrutés durant les 3 jours de son séjour en Nouvelle-Calédonie.
C'est-à-dire qu'on attend des choses.
Ouvéa, parce qu'Ouvéa, c'est une île symbole, c'est une île martyre. Mais les plaies ne sont pas refermées.
Est-ce qu'on attend une phrase aussi forte que celle qu'il avait pu prononcer en Algérie pendant sa campagne? Par exemple, la colonisation était un crime contre l'humanité, valable aussi évidemment pour Nouméa, pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on attend ce genre de choses aussi fort?
Peut-être qu'une partie de la population indépendantiste pourrait attendre ce genre de phrase. Je ne pense pas qu'il prononce ce type de phrase, parce que la question de la repentance coloniale est un sujet très sensible. L'histoire reste un sujet sensible et une partie des anti-indépendantistes ou des non-indépendantistes, pas tous, mais certains ont vraiment de la difficulté à entendre des mots de repentance. Donc Emmanuel Macron, il y va en tant que représentant de l'État. L'État qui est un acteur du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est aussi le garant de ce processus. Donc, je pense que vraisemblablement, l'action du président va être de se poser en garant. Donc, il va écouter tout le monde. Il va d'ailleurs dans les trois provinces. Il va dans des lieux qui sont symboliques, qui représentent la totalité, enfin la grande partie, enfin toutes les parties de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je pense qu'il y va en tant que garant de l'État, donc impartial.
Avec un geste symbolique, on va le quitter après Emmanuel Macron, un geste symbolique en plus, puisqu'il va rendre l'acte de prise de position de l'archipel, une manière de leur dire à vous de jouer maintenant, c'est à vous de décider. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Oui, parce que tout l'enjeu du processus qui a été enclenché il y a maintenant 30 ans, c'est de reconnaître le peuple kanak et que la Nouvelle-Calédonie recouvre sa souveraineté. La souveraineté, ça ne veut pas forcément dire l'indépendance. Enfin, c'est qu'on devient
un acteur.
D'où
la difficulté de choisir la phrase, d'ailleurs, qui sera celle du référendum. Enfin, ça a été toute une histoire déjà.
Oui, mais la souveraineté, la notion de souveraineté a une valeur juridique qui n'a pas la notion d'indépendance. Mm-hmm. Dans l'accord de Nouméa, on ne parle que de souveraineté. Jean-Marie Djibaou parlait déjà très souvent de souveraineté. Et l'idée, c'est que quand on est souverain, on est un acteur à part entière, à part égale avec les autres acteurs. Et donc, on peut renouer une relation, mais à part égale.
Mais je croyais que la phrase, pardonnez-moi, Sarah Mohamed Gaillard disait « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Donc ce mot-là n'existe pas. La vraie question s'arrête à la souveraineté.
C'est quand même la souveraineté. Enfin, je pense que la notion importante, c'est la souveraineté, puisqu'une partie des indépendantistes ont pu demander quel était le processus pour engager une négociation avec la France pour devenir un État associé, par exemple. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais là, ce qui veut bien dire, c'est que la souveraineté, c'est quand on est souverain, on peut décider de ces interdépendances. Ouais. On est un acteur à part entière, on n'est plus dans une relation asymétrique entre la France et la Nouvelle-Calédonie.
Oui. Mais qu'est-ce qui change au final? Qu'est-ce qui va changer? Parce qu'il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent qu'on est déjà dans un degré d'autonomie qui est extrêmement important. Gouvernement, congrès, éducation, fiscalité, donc il reste le régalien en fait. Qu'est-ce qui changerait demain si la réponse à ce référendum c'était oui, pleine souveraineté pour nous, la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qui changerait au quotidien réellement?
Alors, je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'il y aurait quand même des enjeux. D'abord, ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Un enjeu important serait celui de la sécurité, aussi bien intérieure qu'externe de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a l'armée française en Nouvelle-Calédonie a une base. La gendarmerie assure l'ordre,
sécurité, régalien,
la sécurité intérieure. Alors, tous les transferts de compétences ne sont pas encore achevés. Hein. Quand on parle du non-régalien, là je parle du non-régalien. Mais voilà, la Nouvelle-Calédonie aurait la possibilité d'engager une nouvelle relation avec la France. Je ne pense pas que la plupart des indépendantistes souhaitent couper le cordon net avec la France.
Alors entendons bien, ça veut dire que le jour d'après, il ne se passe rien en fait, honnêtement.
Non.
Sincèrement, le jour d'après, il ne se passe rien.
Le jour d'après,
quel
que soit finalement le résultat du référendum, il ne se passe rien si ce n'est une reprise des discussions. Enfin, il ne se passe rien à condition que tout se passe bien, parce qu'il peut aussi y avoir des tensions, des frustrations et de nouvelles violences.
Et c'est là que je vous emmenais en fait, parce que le processus, vous l'avez dit, c'est 30 ans de processus, ça a été extrêmement long, c'était aussi une manière d'essayer de rapprocher deux communautés qui commençaient à avoir un mal considérable à vivre ensemble. Et ce qu'on entend, c'est que le match il est quasiment plié à 60-40. D'abord, est-ce qu'on entend ça aussi? C'est-à-dire non à l'indépendance, plutôt à 60-40. Donc ce que je veux dire, pardonnez-moi, c'est que au final, tout ce qui reste, en fait, c'est ce qui oppose dans ces cas-là. La seule chose qui reste dans l'île, c'est ce qui oppose. Est-ce que finalement, ce référendum n'a pas ravivé des plaies qui étaient doucement en train de se refermer?
Il y a forcément des tensions dans une période comme celle-ci de consultation. Enfin, on est dans la dernière ligne droite avant la consultation. Donc, il y a forcément des tensions qui vont ressurgir, des plaies qui sont mal refermées. Mais cela dit, il y a un moment où cette question de l'autodétermination, il faut bien la poser. C'est pour ça que je pense que la plupart des acteurs, y compris l'État, travaillent pour que tout soit le plus borné possible, que ce soit le corps électoral, la question, pour qu'il n'y ait pas de contestation possible sur le résultat. Alors, très vraisemblablement, La réponse sera non, parce qu'il y a un rapport de force démographique qui n'est pas favorable aux Kanaks. Les Kanaks représentent 39% de la population totale, mais attention, ce n'est pas la totalité des citoyens français vivant en Nouvelle-Calédonie qui vont voter, ce sont les citoyens calédoniens. Donc vraisemblablement, la démographie leur est encore défavorable.
Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que, et c'était peut-être ça aussi le but de ces 30 dernières années, c'était d'essayer de faire en sorte que, d'essayer de convaincre en fait les caldoches puissent être convaincus par les Kanaks. Et visiblement, ce processus, il n'a pas pu avoir lieu, en fait.
Ou alors l'inverse, on peut imaginer l'inverse.
Si on se base sur le rapport de force numérique, en fait, est-ce que ça veut dire que le dialogue ne s'est pas mieux fait, en fait, ces 30 dernières années, ou si, finalement, les deux communautés vivent mieux ensemble qu'elles ne le faisaient en 1988, ou si, finalement, on a avancé, malgré tout, on a progressé, même si ce n'est pas vers l'indépendance qu'on s'achemine.
Alors, l'accord de Nouméa a pour mot d'ordre la construction d'un destin commun, que les citoyens calédoniens avancent vers un destin commun.
Une espèce de vivre ensemble,
Voilà. Faire émerger une nation calédonienne au-delà des clivages communautaires. Le problème, quand même, c'est que le destin commun, ça ne se décide pas par le haut, ça ne se décrète pas. Il faut des actions pour que les gens vivent mieux ensemble. Ça va mieux, mais il y avait un tel décalage, un tel retard entre les populations, et on ne parle pas que des Kanaks et des caldoches, que j'emploie pas dans un terme péjoratif. Il y a aussi beaucoup d'autres communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quelque chose de difficile et on ne crée pas une nation en 30 ans. Donc, les choses vont mieux, mais est-ce qu'on a des communautés...
Mais ce rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes, il n'a pas bougé en 30 ans,
Non, il n'a pas
fait.
Bougé. Mais parce que derrière la demande d'indépendance, il y a aussi très fortement une demande de reconnaissance de la dignité du peuple kanak. On n'est plus forcément dans une lecture indépendantiste qui veut, comme dans les années 70, une rupture immédiate avec la France, mais qui entend être reconnu comme un peuple à part entière, reconnu dans sa dignité, pour pouvoir éventuellement négocier sur pied d'égalité avec la France une nouvelle base de relations communes.
Et ce chemin-là, ce chemin du vivre ensemble, comme vous dites, alors vous dites qu'il y a eu quelques progrès. En même temps, si je regarde quelques chiffres, plus d'un tiers des jeunes Kanaks qui sont au chômage.
Oui.
Entre 2009 et 2016, une délinquance qui a augmenté de 30% pour ces raisons-là. L'alcool, la drogue qui font des ravages, ça veut dire que cette différence, elle est toujours énorme, en fait.
Il y a encore des clivages importants, mais il y a 30 ans, c'était encore plus
c'était
important.
Pire.
La difficulté, c'est que les choses se passent peut-être mieux, mais on a des communautés qui sont sans doute encore sur des voies parallèles. Les connexions se font encore sont pas toujours aisées, en fait. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ce destin, pour arriver à un destin commun, c'est qu'il y ait des aspirations communes et puis des passerelles entre communautés beaucoup plus importantes.
Et qu'est-ce qui bloque, en fait, selon vous? Qu'est-ce qui fait que ces passerelles n'existent pas? Est-ce que
quand on parle de chômage, il faut voir avant qu'il y a aussi un échec scolaire qui est beaucoup plus important pour les enfants kanaks. Il y a des difficultés, une précarité qui est beaucoup plus importante. À Nouméa, il y a beaucoup de squats, d'habitat spontané. La très forte majorité, la quasi-totalité sont des Océaniens, dont une grande partie de Kanak.
Sarah Mohamed Gaillard, vous parliez des dialogues entre les communautés qui ne sont pas encore faits ou pas toujours. Qu'est-ce qu'il en est des dialogues entre générations? Ce que je veux dire, c'est que les vieux du FLNKS, on va dire ceux de 1988, etc., est-ce qu'ils ont transmis ça aux jeunes Kanak? Est-ce qu'il y a moins d'intérêt pour ces questions-là de la part des jeunes Kanak aujourd'hui, quand on est un jeune, qu'on a 20-30 ans dans cette île-là aujourd'hui? Est-ce qu'on aspire, comme les parents, finalement, à l'indépendance ou à plus d'autonomie ou pas? Ou est-ce qu'on aspire à partir, à s'en aller faire ses études en Australie et quitter le caillou?
Je pense que les jeunes Kanaks sont malheureusement assez peu nombreux à pouvoir faire leurs études en Australie. Il y a des passerelles, des programmes qui leur permettent de venir faire des études supérieures en France. Ce qui est certain, c'est que il y a une jeunesse qui est en partie indépendantiste, mais il y a aussi une jeunesse qui ne l'est pas. Et puis, il y a une jeunesse qui, sans doute, est relativement désabusée à l'égard de son avenir et la classe politique en général, y compris indépendantiste.
Dont on le sait si elle va voter, par exemple, ou est-ce qu'elle va même se désintéresser de ce référendum?
Vraisemblablement, une frange pourrait se désintéresser de ce référendum. Tout l'enjeu du FLNKS est de motiver. Ils sont dans une grande campagne qui traverse tout l'archipel pour informer les gens sur les enjeux du référendum et motiver la population à aller voter.
Et au-delà des deux communautés, est-ce qu'il existe quand même ou est-ce qu'il a émergé, est-ce qu'il émerge une sorte de nationalisme calédonien qui, là, pour le coup, pourrait rassembler les deux communautés ensemble, qui parleraient là de la même chose?
Alors, les Calédoniens, le terme de Calédonien est une sorte de symbole du destin commun. Le problème, c'est que vous avez des gens qui se reconnaissent comme étant calédoniens, mais y compris des Kanaks, mais pas tous les Kanaks, loin de là. Et c'est très difficile, en fait, de jouer avec les identités. On a tous des identités multiples. L'identité, par définition, c'est gigogne. Mais les articulations restent difficiles. Donc, est-ce qu'une majorité des habitants de la Nouvelle-Calédonie se définissent comme calédoniens? Je suis pas certaine.
Comment les voisins regardent ça? Parce qu'encore une fois, on est très 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 loin de chez nous, en Nouvelle-Calédonie, de chez nous la France, je veux dire. Comment les voisins regardent ça? C'est aussi la raison peut-être pour laquelle Emmanuel Macron fait un saut en Australie d'abord, avant de passer sur le Caillou d'abord. Comment ils nous regardent? Après tout, il y a du nickel, il y a des choses comme ça en Nouvelle-Calédonie. Comment regarde l'Australie? Comment regarde la Nouvelle-Zélande vers ce petit caillou-là?
Alors l'Australie, traditionnellement, elle est très soucieuse de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La visite, le séjour d'Emmanuel Macron en Australie, c'est la première visite officielle bilatérale d'un président de la République en Australie. Il y avait eu la visite de François Hollande en 2014, mais qui était motivée par l'organisation du G20. Et ça, c'était
du commerce,
fort.
On vendait des avions à ce moment-là.
Là, c'est quand même très fort qu'il y ait à la fois l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, parce que ça montre bien que la Nouvelle-Calédonie n'est plus apaisée depuis les accords de Matignon, n'est plus une épine dans le pied de la relation entre la France et l'Australie. Et les Australiens continuent à regarder avec beaucoup d'attention là ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mais parallèlement, la France et l'Australie sont engagés dans un approfondissement de leur relation stratégique, économique. Le séjour d'Emmanuel Macron en Australie a été un petit peu vu par le bout de la lorgnette, je trouve. C'est pas uniquement faire une belle photo devant l'Opéra de Sydney. La semaine dernière, le Premier ministre australien était en France. Il a passé l'Anzac Day en France. Il est allé inaugurer un centre qui est un centre mémoriel de l'engagement des Australiens pendant la Première Guerre mondiale en France. Ils ont combattu dans la Somme. Et donc la France et l'Australie ont des liens anciens. La France est aussi la première frontière, le premier pays frontalier de l'Australie par la Nouvelle-Calédonie. Les deux pays sont également présents dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Donc on a des enjeux locaux, mais qui résonne à une échelle beaucoup plus globale, puisque sur des dossiers de relations internationales, l'Australie et la France fonctionnent de concert, et ils ont des enjeux communs dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique.
Donc ça veut dire qu'il a fallu rassurer probablement les Australiens, qu'il a dû rassurer les Australiens en disant ça va bien se passer chez les petits voisins d'en face, ne vous inquiétez pas en fait, et c'était important d'entendre ça de la part des Australiens ou pas?
Je pense que les Australiens n'ont pas forcément besoin qu'Emmanuel Macron vienne leur dire que ça se passe bien. Ils regardent avec attention ce qui va se passer. Les Australiens, de manière générale, les autorités australiennes veulent que le Pacifique Sud-Ouest soit stable. Donc pendant les années 80, le facteur d'instabilité, c'était la France, en tout cas la politique qu'elle engageait au regard de la revendication indépendantiste kanak. Depuis plus de 20 ans, la France est perçue comme stabilisatrice dans la région, ce qui ne veut pas dire qu'il soit hostile à une indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Sarah Mohamed Gaillard, c'était passionnant, vous reviendrez donc dans 6 mois au moment de ce référendum. Merci mille fois.
Merci
beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Et la suite, c'est en Inde, à Bangalore, la Silicon Valley de l'Inde, qui commence à manquer d'eau, figurez-vous, et vous verrez ce que ça veut dire. C'est assez effrayant. C'est l'escale reportage d'Un jour dans le monde avec Sébastien Farcy pour nous raconter le cinéma en VO et Eva Bétan, un film chinois avant le grand démarrage du Festival de Cannes. Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir.
Votre édito, vous murmurez à l'oreille de Trump ce soir.
Pas moi. Mais il y a pas mal de présidents, de premiers ministres qui y parviennent et on va essayer de savoir comment ils font.
Allez, le tour de la planète continue en passant par Édimbourg, figurez-vous, Young Fathers in My View.
My belly on a woman, leave her dancing for the lala, tag her for the damn, fine wine and free.
foie gras. In my view, nothing's ever given away. I believe to advance, then you must pay. In my view, love will never come my way. So when I leave, you'll be dancing on my grave. I wanna be king until I am. A man is just a man.
Fathers sur France Inter, In My View.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Inde que nous sommes, vous avez reconnu les klaxons, à Bangalore. Bangalore, c'est l'une des villes les plus modernes du pays. On l'appelle la Silicon Valley du sous-continent. Une population, tenez-vous bien, qui a triplé en 30 ans. Sauf que qui dit population en extension dit besoin en ressources naturelles et besoin d'eau, c'est là que commencent les vrais ennuis. Bonsoir Sébastien Farcy.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Sébastien, le manque d'eau, ça veut dire que les habitants pompent directement dans la nappe phréatique, ça veut dire que ces nappes elles s'épuisent, ça veut dire aussi qu'on va chercher donc de l'eau encore plus loin, à plus de 100 km de la ville, et que l'on crée aussi des phénomènes de pollution terrifiants. On écoute votre reportage.
Nous sommes à l'embouchure du lac de Belandour, le plus grand lac de Bangalore. L'eau dévale ici en cascade dans un passage étroit et cela fait émerger une mousse blanche et épaisse qui recouvre plus de 50 mètres carrés de la surface de ce lac. C'est une vision surréaliste, comme si de la neige s'était posée sur cette ville tropicale du sud de l'Inde. Ishwarappa est avec nous, c'est un militant dans le mouvement populaire pour le droit à l'eau et il nous explique ce qui est en train de se passer.
This lake include soap water, acid water.
Cette mousse est créée par les détergents et les produits chimiques qui sont relâchés dans cet énorme lac. À la saison des pluies, cette mousse se transforme en une vraie montagne. Elle déborde sur la route et on ne peut plus circuler.
Et pendant l'été, ces rejets toxiques entraînent une réaction chimique encore plus surprenante. Une partie de ce lac de Belandour prend feu.
C'est
une sorte d'algue séchée qui prend feu pendant la saison chaude.
In the middle of the lake, en plein milieu du lac.
Oui, en plein milieu du lac.
Cet incendie est créé par la combustion de ces algues de surface au contact du méthane, un gaz très inflammable, rejeté par ces eaux usées. Les autorités affirment qu'elles peuvent retraiter les deux tiers des eaux usées de Bangalore, mais certains contestent ces chiffres, comme le professeur T.V. Ramachandra. Il est le directeur de recherche à l'Institut indien des sciences. Et grâce à ses relevés réguliers, il estime qu'à peine un tiers de ces eaux usées sont retraitées et cela provoque une grave pollution des nappes phréatiques.
De la population de Bangalore dépend de ces eaux souterraines pour vivre. Or, nous y avons trouvé de hauts niveaux de nitrates, ainsi que des métaux lourds. Nous avons aussi étudié les échantillons de légumes verts cultivés en aval, ainsi que des poissons pêchés dans ces lacs. Et nous y avons décelé des niveaux élevés de chromium 6, cadmium et cuivre. Cela entraîne des cancers. Les habitants ont également 20 fois plus de chances de souffrir d'insuffisance rénale qu'il y a 10 ans.
La plupart des villes indiennes font en fait face à ce problème, car dans le pays, seulement un tiers des eaux usées sont retraitées. Mais ce qui est encore plus grave ici à Bangalore, c'est que la ville n'a pas de rivière et a donc besoin de ces nappes phréatiques pour s'alimenter. Dans les grandes tours résidentielles, on pompe donc de plus en plus profond pour aller chercher cet or bleu, jusqu'à 600 mètres de profondeur dans certains quartiers. Cela couvre la moitié des besoins. Le reste de l'eau de la ville vient du fleuve Kaveri, situé à plus de 100 km au sud de la ville. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien, ou presque. Dans le bidonville de Jauli Mohalla, peuplé de recycleurs informels, Jagadishwari lutte pour avoir de l'eau potable.
Je pars à 7h du matin et je marche 2 km pour aller chercher de l'eau. Là-bas, il y a de l'eau qui vient du fleuve Kaveri. Je dois faire la queue pendant 4 heures pour en avoir. Un député local a aussi fait creuser un puits dans notre bidonville. Mais cette eau du sous-sol est très dure. Nous l'utilisons pour laver les vêtements et faire la vaisselle. Si nous la buvons, nous sommes malades.
Chaque année, la ville de Bangalore gagne plus de 400 000 habitants, l'équivalent de la population de Toulouse. Pour faire face à cette pression, les autorités sont en train de construire un sixième tuyau qui augmentera de 50% la quantité d'eau pompée de la rivière Kaveri. Mais certains habitants ont prouvé qu'il était possible d'être autosuffisant en eau à Bangalore. Et ceci sans pomper dans le fleuve ni épuiser les nappes phréatiques, car il pleut beaucoup dans cette ville tropicale. Les responsables du complexe résidentiel de Rainbow Colony, qui compte un millier d'habitants, ont ainsi connecté des tuyaux qui récupèrent les pluies tombant sur les toits ou sur les routes, et ils ont creusé une trentaine de puits pour recharger les sous-sols de ce quartier. Visite de l'installation d'une de ces maisons avec son résident, Joe Kamicheril.
Vous voyez cette gouttière? Toute l'eau récoltée arrive dans ces réservoirs qui peuvent contenir 13 000 litres d'eau. Quand ils sont pleins, l'eau est renvoyée dans les puits pour recharger la nappe phréatique. Donc, pas une goutte d'eau n'est perdue. Pour notre consommation, nous prenons de l'eau de pluie, qui est comme de l'eau distillée. Et nous la mélangeons avec de l'eau du puits afin de lui rajouter des minéraux. Ensuite, nous la filtrons pour éliminer les particules. Et nous la buvons. Nous sommes vraiment ravis de ce système.
Oh yeah, we are very happy.
Depuis 7 ans que ce système fonctionne, ces résidents n'ont pas eu besoin de faire venir de l'eau par camion-citerne comme les autres habitants de cette banlieue de Bangalore. La nappe phréatique, elle, a été rechargée. Elle se trouve maintenant à environ 45 mètres de profondeur contre 350 mètres auparavant. Et enfin, la facture d'eau des résidents a été divisée par 7. Un exemple encourageant pour tous ceux qui veulent reprendre en main la gestion de leur eau.
Sébastien Farsi en Inde pour Un jour dans le monde. Sébastien, merci beaucoup. À très vite. Et voici les Beatles. Within you, without you. Pendant leur période à quatre bras chacun. With you, without you.
3, 2, 1, Moteur.
France Inter. Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le ciné en VO, comme tous les mercredis, avec vous, Eva Bétan. Alors Eva, disons-le tout net, hein, avant le Festival de Cannes, c'est un peu morne pleine pour les sorties ciné. Tout le monde a déjà la tête sur la croisette. Et d'ailleurs, vous aussi, il y a quand même quelques pépites qu'on aurait tort de rater. Comme par exemple ce film chinois que vous avez choisi pour nous. Ça s'appelle Les Anges portent du blanc et c'est signé Viviane Q.
Oui, qu'en termes subtils, des choses affreuses sont dites. Il y a une main légère dans ce film. Il ne faut pas se tromper, y voir de la pudeur ou de l'esthétisme. Non, j'ai plutôt le sentiment que c'est le reflet de la grande indifférence du monde, d'un monde, aux violences faites aux autres, aux femmes et aux filles en particulier. Et il est beaucoup plus confortable de ne pas regarder au-delà des apparences. Les apparences sont calmes, en effet. Une station balnéaire hors saison. La violence faite à deux fillettes est évoquée, suggérée, à travers un écran de vidéosurveillance. L'employé de l'hôtel voit deux fillettes se bagarrer à la porte de leur chambre avec un monsieur. Des fillettes violées, on comprendra. Ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Ni les flics corrompus, montrés de manière un peu caricaturale, on peut le dire, ni l'hôtelier, pas du tout, et à peine on a le sentiment les parents. Et puis, il y a la jeune fille, l'employée. Elle est très jeune, hein. Elle est une sans-papier, alors ça pourrait être pour sa survie qu'elle ne dit rien. Non, la réalisatrice lui donne un rôle beaucoup plus ambigu. En fait, c'est comme si cette très jeune fille avait intégré les lois du monde des adultes, où tout a un prix. Alors on fait quoi avec cette information? On dénonce ou on fait chanter? En douceur, encore une fois, c'est la gangrène de l'absence de valeur qui va loin. Le film se déroule en plein jour, il est clair et c'est une sorte de contraste avec le monde très sombre qui est montré là. Cette Chine de station balnéaire avec une ridicule statue de Marilyn Monroe sur une plage est une sorte de non-lieu. Morceau de Chine, donc, sans identité et sans valeur.
Allez, les anges portent du blanc, Eva Bétan. Alors, il y aura des films chinois à Cannes, où vous allez dans quelques jours, Eva, avec des films de grands cinéastes. Et puis, des films aussi, évidemment, de tous les pays. Vous allez nous donner une sorte d'avant-goût. C'est un peu ça, la beauté de l'exercice.
Des Chinois à Cannes, oui. En compétition, il y aura le grand, probablement le plus grand cinéaste chinois, Jia Zhangke, avec Ash is Purest White, qui raconte l'histoire, d'après ce qu'on peut lire du scénario, d'une danseuse amoureuse d'un gangster. Alors, est-ce que ça va être dans le romanesque pur ou est-ce que ça va être ce qui fait la particularité de Jia Zhangke? Il inscrit des fictions en nous montrant en même temps les énormes transformations que subit la Chine. On verra. Il y a un autre film qui lui est hors compétition et qui est assez incroyable. C'est Les âmes mortes de Wang Bing. C'est un documentaire de plus de 8 heures. Il l'a enregistré, ça a pris des années pour faire ce film, des survivants des camps de rééducation. C'est une page de l'histoire de la Chine qui débute à la fin des années 50. Alors, il y aura aussi des films de tous les pays, et je vais vous dire, c'est peut-être une évidence de dire ça, mais c'est un des bonheurs d'un festival. C'est que, par exemple, quand vous entendez le français dans des films français parler là-bas, c'est une langue parmi d'autres. Et la France est un pays parmi d'autres. Alors, par exemple, en compétition pour la Palme d'Or, il y aura un film kazakh, oui, il y aura un film égyptien. S'il n'y avait pas eu de film égyptien depuis Youssef Chahine, ça s'appelle Yomedine. Il y aura aussi un film libanais d'une cinéaste, ça s'appelle Capharnaüm. Il y aura deux cinéastes en délicatesse, c'est un euphémisme avec leur régime politique, le russe Serebrennikov, qui ne pourra pas venir à Cannes, les autorités russes l'ont déjà dit. Est-ce que les autorités iraniennes laisseront sortir Jafar Panahi? On n'en sait rien, pas sûr du tout. Imaginons, il y aura peut-être une palme d'or décernée à un absent contre son gré. C'est l'absence qui est contre son gré, pas la palme d'or.
Imaginons, en tout cas, vous nous ferez vivre ça, Eva, et vous serez évidemment dans Un jour dans le monde pour nous le raconter avec les pépites du cinéma en VO. Merci.
Le 18-20. Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Et l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, vous avez voulu nous parler ce soir des hommes qui murmurent à l'oreille de Donald Trump.
Et oui, parce que petit à petit, on commence à comprendre comment dompter l'animal, aussi bien dans son entourage proche que dans le monde. D'ailleurs, certains ont fait les frais de ce long et douloureux apprentissage qui nécessite de prendre beaucoup sur soi. Depuis un an et quelques mois qu'il est au pouvoir, l'équipe qui l'entoure a été presque entièrement renouvelée, ministre compris. En clair, ceux qui n'ont pas su lire le Trump dans le texte ont été virés. Il faut pourtant simplement observer quelques règles simples. Donald Trump déteste qu'on lui parle qu'on lui fasse la leçon, ne supporte pas qu'on lui donne des ordres, demande une loyauté surhumaine et au fond gère les États-Unis pas comme une multinationale, non, mais comme une petite PME familiale, c'est-à-dire de manière clanique. Pensez par exemple à la façon dont était géré le Front National en France avant que Marine Le Pen ne tue le père. Excite donc ceux qui, trop diplômés et trop habitués à l'entre-soi élitiste de Washington, eh bien, le regardaient avec une certaine condescendance.
Et ça, Anthony, c'est une leçon qui commence doucement à être comprise à l'étranger.
Et pas seulement par Emmanuel Macron, qui visiblement a tout de suite compris que Donald Trump n'aime pas être flatté, mais veut qu'on l'épate. Les Champs-Élysées, un jour de défilé du 14 juillet, ça fait le job. Mais c'est aussi un homme de sa génération, Donald Trump. C'est-à-dire qu'il aime qu'on ait des égards cérémonieux pour son épouse, par exemple. Le dîner privé à la Tour Eiffel était parfait pour ça. Et il aime surtout qu'on reste à sa place, c'est-à-dire qu'on le respecte pour ce qu'il est, le maître de la première puissance et que mondiale. Là aussi, Emmanuel Macron ne s'y est pas trompé. Respect public et privé, sens de la hiérarchie des puissances. Et ensuite, on peut commencer à discuter. Mais ce n'est pas le seul, effectivement, à avoir compris cette leçon de choses qui donne pas mal d'influence. Ça, c'est encore peut-être ce qu'on mesure le moins bien. Deux autres leaders sont aussi devenus des spécialistes S-Trump. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien d'une part, et Moon Jae-in, le président coréen, d'autre part. Alors prenez par exemple le sommet entre Corée du Nord et Corée du Sud de la semaine dernière. Rien de bien important n'y a été décidé, c'est un fait. Par contre, la pompe et les images ont été particulièrement soignées, un peu comme si le premier ministre coréen envoyait une sorte de carte postale à Donald Trump, un avant-goût de son propre sommet avec Kim Jong-un.
Sauf qu'une carte postale n'y suffit pas, évidemment.
Non, il faut en plus écrire quelque chose d'agréable au dos, quelque chose comme Donald Trump mériterait, oui, un truc du genre, Donald Trump mériterait un prix Nobel pour ses efforts coréens, c'est ce qu'a déclaré le président coréen, pas plus tard que lundi dernier, et c'est très ça permet de lui donner une petite leçon. Ça permet d'une part de lui donner une raison qu'il ne cesse de répéter en meeting, qu'il est l'instrument de la paix à venir. Ensuite, c'est un coup de griffe au prix Nobel de la paix obtenu en 2008 par Barack Obama. Benjamin Netanyahou va même plus loin encore dans l'art de parler à Donald Trump à distance, tout en aidant son propre agenda et celui du président américain. Il y a deux jours, il a invité la presse mondiale à un show sur le thème « L'Iran a menti ». Vous avez vu ça certainement. Peu importe que l'essentiel des informations qu'il ait livrées étaient déjà largement connues. La seule qu'on ait apprise, c'est que le programme nucléaire iranien se résumait à quelques bombes assez rustiques qui feraient bien rigoler la Corée du Nord.
Donc si on comprend bien, l'important c'est la narration, les images.
Et exactement, orienter la narration et surtout colorer les images de façon à ce que Donald Trump puisse se dire et dise « Je vous l'avais bien dit ». De ce point de vue, celui de son et de l'image, Benjamin Netanyahou est absolument imbattable. Emmanuel Macron sur Fox News, ça allait dans ce sens, sauf que ce n'était ni le bon format, ni la bonne heure. Donald Trump regarde la télé le matin, cette télé-là en l'occurrence, et aime qu'on lui parle en 2 minutes 30 maximum, le temps d'un reportage télé. Allez, encore un effort, monsieur le Président.
Voilà, parlez-lui par émission de télé interposée, c'est ce qu'il entend, est-ce qu'il comprend. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. On se retrouve demain dans Un jour dans le monde, la suite du 18-20. C'est le journal et puis le téléphone sonne, il est 19h tout pile.